Europe 1.
Le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour à tous. Mais quel mois de mai, on se croirait au mois de juillet, Dimitri. Hein, cette chaleur qui s'installe presque infernale. J'espère que vous avez votre bouteille d'eau. La plupart des régions françaises vont faire face à des températures caniculaires encore aujourd'hui. Il fait déjà 25 degrés à Perpignan. Cet après-midi à Toulouse, il fera 32, 9 degrés au-dessus des normales de saison. Bonjour Benjamin Péter.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Occitanie, on entend les oiseaux derrière vous. On va vous retrouver dans un instant pour faire le point sur la situation dans la ville rose. Mais avant, votre reportage. Vous êtes allé sur un chantier de construction en périphérie de Toulouse où les ouvriers s'organisent pour tenir bon et continuer à travailler sous un soleil accablant.
Il faut absolument finir aujourd'hui le tour en zinc de cette fenêtre de toit pour éviter toute infiltration. Mais entre les tuiles qui emmagasinent la chaleur et le fer à souder, l'organisme de Segundo est mis à rude épreuve.
Il y a 30 ans, normalement, il y avait le soleil et le fer à souder, ça arrive à 40 à 42 degrés. Hein.
Il faut boire beaucoup.
Boire beaucoup, bien sûr, sauf que sur le toit, il n'y a pas de réfrigérateur pour tenir les bouteilles au frais. Alors Segundo a une technique bien à lui.
Il est caché, là.
Il y a le frigo ici.
Ah, voilà. Il y a mon bouteille sous la tuile. Comme ça, il est fraîche.
Ici, on a l'habitude de ces températures élevées, mais plutôt au cœur de l'été. Laurent Aubel, le patron des couvreurs occitans, ne s'attendait pas à devoir adapter le rythme de ses salariés dès le mois de mai.
On s'est fait un petit peu surprendre par ces températures estivales, alors qu'il y a encore quelques semaines, on avait dégelé. Il faut composer avec. Tous les ans, c'est pareil, même si cette année, c'est effectivement un petit peu tôt. Obligatoirement, on repasse en horaire aménagé, c'est-à-dire qu'on démarre plus tôt. On essaye de s'arrêter plusieurs fois dans la journée pour s'hydrater. La pause du midi est raccourcie également, de manière à pouvoir quitter plus tôt pour éviter la grosse canicule du milieu d'après-midi. Idéalement, il faut être parti du chantier à 4h max. Ouais.
Et ce qu'il redoute, c'est que ces températures estivales dès le printemps n'annoncent des températures caniculaires en juillet-août. À Dox, près de Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Ah bah justement, on vous retrouve, Benjamin, en direct de Toulouse. On entend ce reportage et on a déjà chaud. Est-ce que les températures sont redescendues dans la nuit, Benjamin ?
Eh bien écoutez, la nuit a été très douce, hein. On a pu dormir avec la fenêtre ouverte et puis là à Toulouse il fait déjà 22 degrés. Pour vous dire, 22 degrés c'est à peu près la température qui devrait faire au maximum aujourd'hui selon les normales saisonnières, d'où notre étonnement de se préparer donc à dépasser les 32 aujourd'hui à Toulouse, peut-être plus. Le record établi en mai 2001 ici était de 33,4, on verra s'il est battu. Et c'est d'autant plus perturbant que le mois dernier on grelottait, alors on va pas se mentir, c'est très agréable, on a sans regret rangé les manteaux, les Toulousains ont sorti les shorts, les jupes, les robes d'été, les t-shirts. On s'attend à ce que les terrasses soient une nouvelle fois prises d'assaut dans la journée. Et c'est l'été bien à valeur, on sent que ça réjouit pas mal de monde, sauf qu'il y a des professions qui s'inquiètent aussi. Je vous donne un exemple, c'est le cas des producteurs de fraises dans le Tarn-et-Garonne qui voient leurs fruits rougir beaucoup trop vite. Ils sont contraints de tout cueillir au même moment, là où il était prévu qu'elles mûrissent progressivement. Du coup, certains n'arrivent pas à suivre et doivent laisser pourrir sur pied certaines fraises où du fait de l'abondance de fruits, ils voient les prix s'effondrer. Une catastrophe alors que c'était déjà là, début avril, que la plupart des producteurs de fruits se battaient contre le gel.
Merci Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Et avec cette chaleur, nombreux sont ceux qui veulent profiter de la mer. Mais attention, hier, deux personnes sont mortes noyées dans le sud-ouest alors que les plages ne sont pas encore surveillées.
Il est 8h04 sur Europe 1. La course contre la montre d'Elisabeth Borne. La première ministre doit avoir composé son gouvernement d'ici vendredi.
Ouais, elle enchaîne donc les coups de téléphone et les rendez-vous. Rencontre hier avec les députés de la majorité. Déjeuner de 3 heures avec Emmanuel Macron à l'Élysée, à peine nommé et déjà un agenda surchargé. Alexandre Chauveau, quel est le programme des jours à venir pour Elisabeth Borne ?
Eh bien, la nouvelle hôte de Matignon va poursuivre les entretiens physiquement ou par téléphone avec de potentiels futurs ministres. Un travail supervisé de très près par Emmanuel Macron. Le nouveau gouvernement devrait ainsi être connu entre aujourd'hui et vendredi. Gouvernement qui pourrait être resserré, une quinzaine de ministres tout au plus, alors que les ministres délégués et autres secrétaires d'État devraient être nommés après les législatives. En attendant, Elisabeth Borne a trouvé son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, énarque et ancien directeur adjoint de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve à Matignon. Il était depuis 2018 directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Alors une fois son gouvernement nommé, Elisabeth Borne pourrait effectuer en fin de semaine un déplacement dans le Calvados, département où elle se présente aux législatives. Elle lancerait ainsi la campagne en tant que candidate mais aussi comme nouvelle chef de la majorité. Viendra ensuite son premier grand chantier à Matignon, un plan anti-inflation qui pourrait être présenté début juin en Conseil des ministres.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La guerre en Ukraine, selon le ministre ukrainien de la Défense, dans le Donbass hier, 7 civils auraient été abattus par les forces russes hier.
Et c'est justement pour avoir tué un civil qu'un soldat russe est jugé dès aujourd'hui à Kiev. Vadim Chichimarine, 21 ans, comparaît pour crime de guerre et meurtre avec préméditation. Ce sont les mots de la justice ukrainienne. Il encourt la prison à perpétuité. Bonjour William Molinier.
Bonjour.
De quoi cet homme est-il accusé exactement ?
Eh bien, d'avoir tué un homme de 62 ans qui n'était pas armé, selon l'accusation. Les faits remontent au 28 février dernier, près du village de Choupakivka, dans le nord-est du pays. Ce soldat russe était avec quatre autres militaires à bord d'une voiture qu'ils avaient volée après que leur convoi a été attaqué. L'un d'entre eux, depuis la fenêtre, sans raison apparente, a ouvert le feu sur ce civil alors qu'il circulait à bicyclette sur le bord de la route.
William, que sait-on de l'accusé ?
C'est un jeune soldat russe âgé de 21 ans. La télévision ukrainienne a diffusé l'image de son visage vendredi dernier lors de son audience de fixation au tribunal. Il est arrivé menotté, crâne rasé et habillé d'un survêtement gris. Il a dit être venu combattre en Ukraine pour soutenir financièrement sa mère. Sur les faits, il a reconnu avoir tiré sur la victime tout en expliquant en avoir reçu l'ordre.
Dans ce procès, William, l'Ukraine est à la fois jugée partie. C'est sur son territoire que se déroule cette guerre. Peut-elle rendre une justice équitable ?
Ce procès est effectivement entaché de plusieurs réserves. D'abord, il survient 2 mois et demi seulement après les faits. L'émotion est extrêmement vive dans le pays et on peut légitimement s'interroger sur une justice rendue à chaud dans ce contexte. Ensuite, les motifs d'accusation sont sujets à caution. La notion même de crime de guerre répond à des standards internationaux très précis. Chaque civil mort en Ukraine n'est pas forcément la victime d'un crime de guerre. Tout cela doit être étayé, vérifié, documenté de façon indépendante. Or, pour l'instant, les observateurs internationaux se font rares sur le terrain, même si hier, la Cour pénale internationale a annoncé le déploiement dans les prochains jours de 42 enquêteurs et experts dans le pays.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
Allez, pendant ce temps-là, la Finlande et la Suède viennent de déposer à Bruxelles leur demande commune d'adhésion à l'OTAN.
Oui, remise en main propre au secrétaire général de l'Alliance Atlantique au siège de l'organisation à Bruxelles. Bonjour Caroline Baudry.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Helsinki, la capitale finlandaise. Après le dépôt de candidature, quelle est la prochaine étape pour la Finlande et la Suède ?
Eh bien, c'est le début des pourparlers d'adhésion, de réunions au siège de l'OTAN à Bruxelles, où les candidats doivent convaincre les représentants des 30 pays membres qu'ils sont compatibles avec l'Alliance en termes de droits, de ressources, et qu'ils sont prêts à s'engager si l'un d'entre eux est attaqué. C'est le fameux article 5 fondateur de l'OTAN. Andersson Alderkrutz s'est élu ici au Parlement. Cette étape peut, selon lui, aboutir en quelques jours.
Ce que nous disons souvent, c'est que nous sommes davantage compatibles avec l'OTAN que beaucoup de pays de l'OTAN. Un autre point est que la Finlande apporte des capacités nucléaires à l'OTAN. Nous sommes un fournisseur de sécurité et nous sommes vraiment convaincus que l'OTAN n'en sera que meilleur en faisant entrer la Finlande et la Suède.
Après cela démarre le processus de ratification. Les parlements de chaque État membre doivent approuver la demande. Cela peut prendre plusieurs mois, voire un an selon cet élu. Mais le patron de l'OTAN promet un processus rapide et des garanties de sécurité à la Finlande et la Suède qu'il dit accueillir à bras ouverts.
Merci Caroline Baudry, envoyée spéciale en Finlande en direct d'Helsinki.
Le festival de Cannes s'est ouvert hier soir et la star du jour, ce sera Tom Cruise.
Mais oui, Maverick pourrait-on dire, puisqu'il sera sur le tapis rouge aujourd'hui, Tom Cruise, pour la sortie de ce deuxième Top Gun, Maverick, avec Europe 1. Marie Jiquel, vous êtes sur la croisette et le moins qu'on puisse dire, c'est que Tom Cruise y est très très attendu.
Et oui Fanny, c'est la star que tous les festivaliers attendent.
Tom Cruise, pour Top Gun ? Oui, j'ai amené mes jumelles. Here we go.
3, 2, 1. L'acteur Tom Cruise, 60 ans cette année, est la promesse d'assurer le show sur la croisette, comme il assure lui-même les cascades de ses films. 30 ans que la superstar n'avait pas foulé le tapis rouge de Cannes, et pourtant les films d'auteur ne manquent pas à sa filmographie. On se souvient d'Ice Wide Shut de Stanley Kubrick, ou Magnolia de Paul Thomas Anderson, une carrière étourdissante sur laquelle il aura l'occasion de revenir cet après-midi lors d'une masterclass. Ensuite, on imagine qu'il aura tout juste le temps d'enfiler son smoking et ses Ray-Ban pour retrouver les marches du palais du festival et envoyer les amoureux du 7e art au 7e siècle.
Marie Jiquel, envoyée spéciale sur la croisette pour le 75e festival de Cannes, qu'on suit de près avec Europe 1.
Effectivement, merci beaucoup Fanny, c'était votre journal.